le petit bonheur l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens tente dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison sur le bord de mon cœur.
Tranche de vie, petit voyage à travers nos existences.
Tout fut oublié, ma vie de désœuvrée, j'avais des goûts de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, mes amis me faisaient des peines. Je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine.
Chers amis auditeurs de Tranche de vie, c'est une évidence de dire que dans nos sociétés dites évoluées, les changements rapides des structures familiales et l'affaiblissement et la transformation des relations intergénérationnelles ont créé de nouvelles situations de dépendance. C'est pour faire face à ce phénomène que des associations telles que l'AKDVS à Coulounieix-Chamiers œuvrent quotidiennement. Nathalie Lallier est la directrice de l'AKDVS. Je la remercie de bien vouloir nous parler aujourd'hui de son travail. Nathalie, bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que signifie ce sigle AKDVS ?
Bonjour. AKDVS, c'est le regroupement de l'ACAD et de l'ADVS, qui étaient deux associations, une sur Coulounieix-Chamiers, une sur Chancelade, qui se sont regroupées en 2008 et qui ont formé l'AKDVS. Donc on insiste beaucoup sur le AD, c'est l'aide à domicile, et le VS, qui est la vie sociale.
D'accord. Et le C, alors, qu'est-ce que c'est ?
Bah, c'est l'association Chancelade, Coulounieux, Chamiers, voilà, c'est les trois C des
d'accord,
communes.
D'accord. Donc vous avez fédéré des actions qui étaient un peu voisines,
oui,
dans trois communes, et vous n'en avez fait qu'une seule. Oui. Alors, avant qu'on parle un peu plus de vous, est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement ce que c'est que l'AKDVS ?
Alors, c'est une association qui travaille dans le service à domicile auprès des personnes a priori tout public. Aujourd'hui, on s'est beaucoup spécialisé sur la personne âgée et la personne en situation de handicap, mais on intervient aussi dans des familles qui travaillent pour les aider, pour l'entretien du logement et du linge essentiellement. Donc notre cœur de métier quand même aujourd'hui, c'est d'accompagner tous les jours des personnes qui ont des besoins de soutien pour des actes du quotidien, essentiels de la vie et de la vie sociale, parce que quand on ne peut plus sortir de la maison, on souffre d'isolement et que c'est bien d'être accompagné pour recommencer à sortir de la maison ou pour recevoir chez soi.
Alors tous ces services, ce sont des personnes qui ne peuvent plus les attendre ou qui ne peuvent plus en attendre qu'une partie de leur famille.
Oui, parce que les enfants habitent loin ou les petits-enfants, parce que les enfants travaillent encore, parce que les enfants sont eux-mêmes fatigués quand on a 90 ans et plus. Les enfants en ont 70 et sont aussi parfois fatigués ou fragilisés par de la maladie. Voilà, c'est aussi l'allongement de la vie qui fait que les structures familiales peuvent se soutenir ou parfois ont du mal à se soutenir parce que la maladie peut toucher tout le monde. Et notre rôle avec d'autres partenaires du champ social, du champ médical, des partenaires qui sont sur le territoire, on aide, on accompagne, on propose des solutions très complémentaires pour que la vie au quotidien soit qui corresponde le mieux à ce que la personne attend de sa vie de tous les jours.
Quelle est la structure de l'association ? C'est une association ?
Oui.
Une réunion d'associations, mais qui sont communales ou qui sont indépendantes ?
Alors, c'est une association loi 1901 qui sont indépendantes, mais très impliquées parce que les acteurs de nos communes sont très impliqués dans notre vie d'association. Nous avons des administrateurs qui sont soit des anciens élus ou soit qui sont devenus élus, mais parce qu'ils étaient déjà impliqués dans notre action pour au service des personnes âgées ou des personnes handicapées, et aussi parce qu'ils voulaient défendre de l'emploi. l'emploi, vivre de son métier d'aide à domicile, c'est pas rien. C'est faire une carrière dans ce métier-là. Nous avons des personnes qui partent en retraite et qui ont 20 ou 30 ans de carrière dans ce métier d'aide à domicile et dans l'association AKDVS.
Alors, avant d'aborder dans le détail tout ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres pour que nos auditeurs puissent apprécier l'importance de votre personnel, de vos actions?
Alors, nous accompagnons en moyenne 600 familles par an. En moyenne. Ça veut dire que par mois, c'est 450 à 500 personnes. Et pour cela, nous avons une équipe, enfin nous sommes une équipe, puisque j'en fais partie, de 85 personnes. Donc qui travaillent dans les bureaux administratifs, d'accord, pour recevoir les demandes, pour organiser le travail, pour faire les payes, les déclarations, etc. Et 72 à 74 personnes qui travaillent sur le terrain. Donc des auxiliaires de vie, des employés à domicile, des agents à domicile. Qui partent tous les ans se former, parce que c'est important de continuer toujours à apprendre son métier, les nouvelles technologies, répondre pour des nouveaux besoins, parce que notre vie au quotidien, elle évolue, celle des personnes âgées aussi, et qu'il faut suivre ces évolutions.
Alors, si je comprends bien, vous avez un pool de personnel que vous pouvez utiliser pour répondre rapidement à des demandes de services, puisque je me suis un petit peu documenté, j'ai vu que vous aviez deux types principaux de services, un type qui s'appelle service prestataire et un autre qui s'appelle mandataire.
Oui.
Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que c'est un vocabulaire périmé?
Non, c'est toujours d'actualité. Mandataire, c'est parce que les familles veulent être employeurs de leur aide à domicile, mais bon, les papiers administratifs, c'est compliqué. Donc nous, on est un accompagnateur de ce travail administratif. On propose du personnel compétent à recrutement. La famille choisit les personnes. Dans les personnes qu'on présente, elle en choisit une ou deux. Nous, on s'occupe de tous les papiers, les démarches administratives pour que l'emploi soit bien déclaré, sécurisé, formé, accompagné. Et sinon, le service prestataire, là, l'ensemble des salariés dépendent de l'association AKDVS.
C'est parmi ces salariés que vous allez sélectionner une personne qui va répondre à une demande précise de service.
Oui.
Ça veut dire que dans les communes où vous agissez, vous avez des relations avec les services sociaux dépendant directement de la commune. Je prends l'exemple de Clougnier-Chamiers, par exemple. Le Centre communal d'action sociale peut vous envoyer des clients potentiels.
Ah oui, et nous travaillons sur même des projets communs avec le Centre d'action sociale et même le Centre social Saint-Exupéry. Nous menons des actions pour accompagner sur la vie sociale, pour rencontrer les personnes qui vivent seules, mais qui sont encore un peu autonomes, qui peuvent sortir de chez elles. Et bien, nous avons mis en place un temps convivial de repas le mercredi midi, ou des accompagnements pour des courses de façon un peu collégiale. Enfin, voilà, on met en place des initiatives, et bien sûr, c'est avec les services d'action sociale, des communes, bien sûr.
D'accord, puisque là, j'ai listé tout à l'heure, là, j'ai regardé un petit peu toutes les directions dans lesquelles vous travaillez. Alors, il y a la famille, il y a la personne, il y a la sécurisation,
oui.
Il y a tout ce qui concerne l'action administrative, ce que vous évoquiez tout à l'heure, la vie sociale avec ce que vous venez d'évoquer à propos de votre collaboration avec le Centre social Saint-Exupéry, et puis la mobilité, puisque c'est devenu quelque chose aussi, un service important qui est attendu d'un certain nombre de personnes qui sont isolées pour une raison ou pour une autre.
Oui, nous accompagnons soit en individuel, parce que les personnes ne peuvent plus conduire, et l'aide à domicile a un véhicule adapté pour accompagner une personne âgée, mais aussi une personne en situation de handicap avec un fauteuil roulant. Mais aussi une personne âgée avec un fauteuil roulant. Aujourd'hui, nous sommes équipés d'un camion. Et donc, ça permet de maintenir l'intervention à domicile, mais avec un véhicule adapté qui permet à la personne de monter dans le véhicule et de partir faire des courses ou à des rendez-vous médicaux ou administratifs qu'elle a besoin de réaliser. Donc en fait, on peut le faire en individuel, mais aussi on le fait en collectif, en petit collectif de 4 personnes maximum avec l'auxiliaire de vie et qui font des activités de loisirs, de plaisir, de la vie. Soit elles vont marcher sur la voie verte, ou elles se reçoivent pour faire des jeux en commun, ou pour manger ensemble, mais à domicile, et passer des moments conviviaux. Et là, l'accompagnement à la mobilité, c'est important, puisqu'on sait que quand on ne peut plus conduire ou quand on ne peut plus marcher longtemps, l'isolement devient vraiment un gros problème et source d'ennui terrible et de mal vivre, on va dire. Hein.
Voilà. Problème psychologique de tout ça.
Voilà.
Alors, donc, moi, je retiens quand même que cette rupture de l'isolement, c'est quand même un de vos objectifs essentiels, enfin, qui regroupe plusieurs de vos actions. Comment vous faites-vous connaître ? Est-ce que les gens viennent quelquefois spontanément, ou est-ce que vous... On évoquait tout à l'heure la situation du Centre communal d'action sociale, mais est-ce qu'il y a d'autres sources peuvent vous procurer aussi des clients potentiels ou qui veulent diriger des personnes vers vous ?
Oui, il y a plusieurs sources. Il y a le bouche à oreille, parce que la qualité du travail rendu par les personnels, les gens parlent entre eux, les familles se parlent, nous recommandent, parce que les aides à domicile font du bon travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, j'ai envie de dire, tous les professionnels de santé qui observent aussi le travail qui est fait par le personnel au domicile des familles, donc infirmiers ou médecins, nous recommandent aussi. Il y a les services sociaux, les assistantes sociales de l'hôpital ou des cliniques ou des centres de convalescence qui nous les orientent. Parce que mon équipe administrative et moi-même, nous travaillons beaucoup avec eux pour corriger ce qui ne va pas, pour répondre aux attentes des familles. Et c'est pour ça que depuis des années, on travaille tous les jours de l'année, toutes les nuits. C'est-à-dire qu'on est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au domicile des personnes, parce que c'était un besoin et on a construit des réponses pour répondre à ces besoins. Et en fait, les personnes s'adressent à nous parce qu'elles ont entendu parler de nous par des professionnels ou par le bouche à oreille, principalement. Voilà.
Alors, avant de vous poser quelques questions sur la manière dont vous avez vu évoluer la demande au fil du temps, de votre expérience, on va parler un petit peu de vous. Comment est-ce qu'on devient responsable d'un organisme à vocation sociale tel que la KDVS ?
Alors aujourd'hui, il existe des formations hein, pour les jeunes. À l'époque, il n'y en avait pas hein, quand j'ai commencé, ou il y en avait moins. Aujourd'hui, il y a des formations qui existent à la fac ou dans des instituts spécialisés. Moi, c'est un peu le hasard hein, de ma vie professionnelle, puisque j'étais dans la formation professionnelle et dans l'insertion, que j'ai travaillé, j'ai encadré des femmes qui cherchaient à se créer du travail, et je les ai formées dans l'aide à domicile. Donc, je les ai accompagnées pendant plusieurs mois, et puis je continuais à faire de la formation. Et puis un jour, je travaillais dans l'insertion professionnelle aussi, hein, des demandeurs d'emploi, et notamment les femmes, qui sont toujours une population beaucoup plus touchée par ce problème-là. Et voilà, et puis des rencontres, et puis j'ai quitté le champ de la formation, j'ai eu cette opportunité, j'ai postulé, puis après j'ai continué à me former pour avoir un diplôme pour pouvoir occuper de façon pleine et entière mon poste de directrice.
Alors je retiens quand même que depuis le début de votre vie professionnelle, vous avez quand même une orientation sociale toujours. Affirmée.
Oui, toujours. J'ai commencé ma vie professionnelle. Ma formation, c'était un BTS en économie sociale familiale. Donc, j'étais déjà un peu orientée quand même dans le champ social. Mais ça s'est toujours confirmé dans ma vie professionnelle, puisque c'était près des hommes, des femmes, les accompagner, trouver des réponses dans sa... Enfin, que chaque individu trouve sa place. Parce que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile de construire une vie sociale, de construire une vie professionnelle. Et voilà, moi, ça me plaisait d'être un peu cette personne qui puisse être un médiateur à un moment donné d'un parcours de vie, quoi.
Qu'est-ce qui fait, selon vous, quelles sont les particularités des communes où vous agissez dans le domaine de votre action? Qu'est-ce qui peut distinguer ces communes d'une commune beaucoup plus urbaine comme centre de Périgueux?
Alors, c'est la proximité. Je crois que ce qui est intéressant, c'est la volonté des personnes, bien sûr, hein, d'aller les uns vers les autres, de se connaître, de se reconnaître, de se faire confiance. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'à Coulounieix-Chamiers et à Chancelade, on m'a fait confiance. Les gens ont eu confiance en moi. Et du coup, ils sont montés dans le même train que moi. C'est-à-dire qu'on a créé, on a osé innover parce qu'on était ensemble. Et c'est vrai que les partenaires, c'est ça aujourd'hui. Les administrateurs, les élus, les partenaires du champ social ou médico-social me font confiance, je leur fais confiance. Et du coup, on monte des projets et c'est dynamique. Voilà, c'est dynamique. On a peu de moyens, mais comme on se les met ensemble, on y arrive ensemble. Voilà.
Alors là, je comprends bien que ça soit absolument indispensable qu'il y ait cette bonne entente et cette cohésion entre les partenaires de votre action. Mais ma question portait surtout sur vos clients.
Oui.
Est-ce que dans votre clientèle, est-ce que vous pensez que la clientèle de vos communes est une clientèle qui est différente, ou est-ce que vous rencontrez le même genre de problème à votre connaissance dans vos communes qui sont des communes périurbaines que dans les communes urbaines ou dans les communes franchement rurales?
Sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, la souffrance, l'expression de la souffrance liée à l'isolement, on peut le vivre même en étant dans un logement collectif, parce qu'on ne parle plus à son voisin ou on n'ose plus, et parce qu'on ne sort plus de chez soi, ou qu'on vive en milieu rural. Alors, parfois, c'est plus facile de se faire rencontrer les gens quand ils n'habitent pas très très loin, parce qu'on gagne du temps aussi en transport, hein, pour les rassembler. Mais je pense que la souffrance, elle est la même, où que l'on habite. L'isolement et cette expression de souffrance, elle est la même. Après, les réponses, nous avons beaucoup de chance, je trouve, c'est que nous sommes nombreux, il y a des propositions faites par divers partenaires, le centre social, le CCAS, la KDVS, Cassiopea, qui est une association avec qui nous travaillons, nous organisons des goûters ensemble. Enfin voilà, il y a différentes propositions qui sont faites aux adhérents de notre association et des structures partenaires qui du coup sont force de propositions de sortie et de convivialité pour nos adhérents. Aujourd'hui, je trouve que c'est extraordinaire parce que toutes les semaines, il y a des choses qui leur sont proposées, et c'est souvent ce que nous renvoient les familles. Hein. Qu'est-ce qu'on a de la chance de vivre là, parce que même l'été, ça ne s'arrête pas, quoi, aujourd'hui. Il y a les jeunes qui sont là l'été, tous les après-midi, il y a des choses que nous organisons. C'est extraordinaire, quoi.
Donc, vous, de la position que vous occupez, est-ce que vous avez l'impression que dans des communes où vous agissez, il peut encore exister des poches ou des situations individuelles d'isolement vraiment tragique et
oui,
auxquelles vous n'avez pas encore pu remédier?
Oui. Oui, tout simplement parce qu'une personne qui souffre, parfois ne s'autorise, n'imagine même pas qu'il peut y avoir un petit coin de soleil, un petit coin de bonheur à côté, là, avec donc les différentes activités que nous proposons, les actions de convivialité, de vie sociale. Ils ne l'imaginent pas, et parfois ils ne l'autorisent pas. Et c'est en les mettant en situation, et c'est ce qu'on travaille avec Isabelle Plénat du Centre Social ou avec Muriel Beau du CCAS, c'est leur faire découvrir ce petit bonheur et pour qu'ils y goûtent et qu'ils y viennent et qu'ils y restent. Voilà. Et du coup, on fait des rencontres, ils refont des connaissances et c'est ce qu'on essaie de développer aussi sur Chancelat parce que à travers ces petites initiatives et ces petites rencontres, c'est vraiment le vivre simplement, c'est proposer des choses simples mais qui soit réaliste et réalisable. Et du coup, ils se l'approprient et ça devient une nécessité, une attente réelle de leur part. Mais oui, il y a encore beaucoup de gens hein, qui sont seuls et qui souffrent de ça.
Est-ce que vous avez un recul suffisant bon, il y a plusieurs années quand même que vous exercez la fonction que vous exercez. Vous avez un recul suffisant pour voir, apercevoir une évolution dans la situation des communes où vous intervenez?
Alors, ce dont je m'aperçois et qui me rassure aujourd'hui, c'est que les personnes que nous rencontrons formulent beaucoup plus facilement l'envie de bien vivre, de bien être. On était plus généralement dans de la demande de ménage et de repassage, de repas un petit peu. Aujourd'hui, passer du bon temps, ça devient beaucoup plus naturel dans la demande et dans les attentes et l'expression des personnes. Donc je me dis que finalement, les familles deviennent exigeantes dans la qualité de vie qu'ils souhaitent maintenir malgré l'âge, malgré la maladie ou l'handicap. Vivons bien parce que parce qu'on se sent aussi le droit d'y accéder ou d'y rester.
Alors ça, c'est plutôt encourageant, ah, parce oui. Que si on compare cette situation avec celle auquel des services comme le vôtre ont dû remédier il y a une vingtaine d'années, ou bien si on pense à la situation de pays moins riches que le nôtre, ouais. Ça veut dire que les besoins élémentaires sont satisfaits et que les gens cherchent autre chose, enfin peuvent se payer le luxe de chercher autre chose. Même s'ils ont des moyens réduits.
Alors, c'est là où je pense que nous avons été intelligents. C'est que nous avons permis aux familles, même sans beaucoup de ressources, d'y accéder. Parce que c'est ça l'enjeu. Apporter une réponse à des gens qui ont les moyens d'y satisfaire par leurs propres moyens, parce qu'ils ont la chance d'avoir une très bonne retraite ou des ressources suffisantes, j'ai envie de dire, ça c'est facile. Tout le monde peut le faire. Apporter une réponse qui soit accessible financièrement à tous, il était là l'enjeu. Et je pense que c'est là où on a été fort, c'est qu'on s'est mis ensemble et qu'on a apporté des solutions où les gens ont compris qu'en se mettant ensemble, ça serait beaucoup plus accessible financièrement. Et c'est vraiment... et puis on va chercher des fonds, des aides pour rendre toujours plus accessible aux plus nécessiteux, quoi. L'égalité d'accès, c'est une réalité aussi, hein.
Alors, puisque vous me tendez la perche, je vais vous demander comment vous trouvez vos ressources, puisque une partie de vos services sont des services que vous rendez et qui ne sont pas, qui sont gratuits.
Une partie parce qu'on va chercher soit auprès des caisses de retraite qui ont des fonds d'action sociale, donc on dépose des dossiers. Vous voyez, en ce moment, je suis en train de déposer un dossier pour que les aidants qui accompagnent tous les jours leurs proches malades et le droit aussi d'avoir un après-midi de détente, de bien-être, puissent obtenir ce droit-là et que ça soit soutenu financièrement et aussi que leur proche malade soit lui aussi accompagné par un professionnel. Voilà, alors je vais chercher, je vais solliciter pour à des caisses de retraite pour ça, ou alors à des fondations, ou alors il a fallu rechercher, acheter des véhicules, je suis allée rencontrer des fondations de banques ou d'assurances, enfin voilà. Système D, hein, faut lire, faut rechercher, faut écouter, parce qu'il y a aussi des partenaires, hein, qui nous indiquent. Je veux dire, les partenaires financeurs, c'est des partenaires, hein, qui me donnent des idées aussi.
Oui, ça peut être gratifiant et même intéressant pour certains, mais ça suppose quand même de votre part beaucoup d'imagination et beaucoup d'énergie.
Oui, et de mon équipe, hein. Je ne suis pas toute seule.
Alors justement, à propos de votre équipe, est-ce que dans votre équipe, il y a des bénévoles ou bien est-ce que ce sont uniquement des... Vous avez quelle proportion de bénévoles ?
Alors, il y a des bénévoles. Alors, au niveau de l'administratif, bon, il y a 12 personnes, mais bon, tous les jours, il y a 10 personnes hein, qui sont là. Donc, pour du pur administratif ou de la relation famille responsable de secteur ou coordonnateur d'action sociale. Hein. Et il y a les administrateurs et des bénévoles. Alors, les administrateurs et les bénévoles, les administrateurs aident au bon déroulé de la vie de l'association, parce que ça, c'est important aussi. Il faut que cette association, qui est employeur de 85 personnes, fasse son travail d'employeur aussi. Et des bénévoles en plus qui aussi accompagnent nos actions de festives, on va dire, avec les adhérents. Donc on organise des sorties ou des repas avec ces bénévoles et avec ces administrateurs parce que cet échange aussi, cette rencontre entre les familles qui sont... en souffrance quand même, hein, parce que bon, la maladie, les douleurs, ça, c'est pas facile tous les jours. Ces temps festifs avec les administrateurs ou des bénévoles qui, alors des fois, ce sont des auxiliaires de vie qui sont partis à la retraite, puis qui continuent à venir bénévolement pour ces temps de convivialité. Et cet échange-là crée de l'émulation. Parce que tous les mois, j'ai un groupe d'administrateurs et quelques salariés, on se retrouve et on fait le point justement sur nos projets, nos actions innovantes et ce qu'on pourrait créer d'autres. Voilà. Et c'est vraiment en lien avec les besoins des personnes, les familles qui expriment des envies, les salariés qui reçoivent ces envies ou qui pensent à des... parce qu'elles les observent hein, en activité, donc elles pensent aussi à des choses nouvelles. Et les administrateurs qui, eux aussi, se projettent dans ces innovations et qui nous poussent à réfléchir et aller chercher des moyens financiers pour pouvoir monter ces projets. Voilà, on se répartit les rôles.
J'ai encore plein de questions que je voudrais vous poser. Il faudra peut-être qu'on fasse une deuxième séance, mais si on ne parle pas de votre vie en dehors de la KDES, on va arriver au bout du temps qui nous est imparti. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous avez une vie en dehors de la KDES ?
Oui, j'ai 3 enfants que j'ai élevés avec mon mari, donc ils sont grands maintenant. Donc, j'ai passé nous avons passé avec mon mari beaucoup de temps à nous occuper de nos 3 enfants, puisque je n'ai jamais arrêté de travailler, donc voilà, il a fallu composer ça et passer beaucoup de temps avec eux dans des activités sportive, culturelle, donc c'était aussi des rencontres humaines et impliquées dans le champ associatif. Et puis maintenant qu'ils sont grands, j'ai envie de dire on a plus de temps aussi pour nous, donc on se recentre aussi sur nos passe-temps bricolage, jardinage, musique, lecture, un peu plus de temps pour lire parce que j'ai pas beaucoup lu pendant des années.
Vous êtes musicienne ?
Mon mari. Oui. Mon mari est musicien et donc voilà, il me joue la sérénade tous les jours. C'est agréable.
Nathalie, merci beaucoup de votre enthousiasme. Merci de tout ce que vous avez apporté à nos auditeurs sur cette association que vous dirigez. Et bonne chance pour la suite.
Merci.
Votre magnifique travail de solidarité.
Merci beaucoup.
A fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti sans me donner.
C'était
la main.
Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
Lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure.